On m'appelle Marius et j'ai envie de dormir. On m'appelle Marius et j'ai envie de dormir. On m'appelle Marius, mais je dormirai pas. Je dormirai plus. Je suis un virtuose de l'insomnie. Je refuse de dormir. C'est mon choix. Un choix délibéré, un vrai choix à moi qu'on me volera pas de sitôt. C'est que je me suis tout fait piquer. On m'a pillé jusqu'au fond des tripes. J'en pleure de rage. Et encore, pleurer de rage, ça serait toujours quelque chose de vrai. Mais même ça, on me l'a volé. On me l'a bouffé, digéré, recyclé, ça n'existe plus. On nous vole un à un nos rêves et nos désirs, tous. Il n'y en a plus pour personne. D'ailleurs, c'est un secret pour personne. Et c'est bien là le dernier malheur. Celui du fond. Celui qui laisse plus aucun espoir. Un pleur sans larmes et sans douleur. Juste un cri sans chair. Baigné dans un sang transparent. Un sang qui fait pas peur. Déjà plus du sang, quoi. Alors ce choix-là, merci, mais je me le garde. C'est très bien, personne n'en veut. Alors moi, je prends. C'est mon truc. Croyez pas que c'est facile. C'est un vrai sacerdoce de pas dormir. D'abord, faut y croire. Ah, plutôt difficile de croire, hein? Enfin, je veux dire, une vraie croyance qu'on choisit pour toute la vie, une quête, une étoile qu'on peut suivre de jour comme de nuit et par n'importe quel temps. C'est même devenu un phénomène de foire, un truc pareil aujourd'hui. Eh oui, la croyance, ça s'ingère pas comme une pilule au fond de soi. On mange plus de ce pain-là depuis belle lurette. Et puis, la croyance... On manque toujours de s'enfoncer quand on marche sur ce genre d'étendue. Alors faut étendre des planches, développer une vraie liturgie, un sac à nouilles d'habitude, bien complexe et plein d'imagination. Une armée de trompettes pour se réveiller quand on n'y croit plus et qu'on commence à s'assoupir, à sombrer dans les eaux profondes et pas claires de l'endormissement. Quel sale bavardage. Preuve qu'on risque de s'endormir à chaque instant. Hop là, on arrête tout de suite le massacre. Il y a des spécialistes pour la parlotte. Circulez et au boulot, vous dormirez mieux ce soir. Mais ne vous y trompez pas, j'ai beau faire le malin, personne n'aime dormir autant que moi. Qui n'aimerait pas ça d'ailleurs? C'est comme une douce bascule de l'autre côté, un effacement progressif de toutes les souffrances avec, à peine, un sursaut de plaisir, mais un sursaut à l'envers, vers le fond. C'est comme fumer une bonne pipe à la mort en faisant des ronds de fumée, et chaque rond vous envoie un peu plus loin derrière le rideau et les lumières qui baissent. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Finalement, le sommeil, c'est notre dernier opium à nous, les écorchés de la veille, les douloureux du jour, les trop fatigués pour continuer toute cette merde en tas, ces barrages de merde en sédiments, déposés et accumulés depuis des millénaires, tellement qu'on n'a même plus envie d'y aller voir les couleurs qu'elle a prises en séchant la merde, compressée et mise en bonbonne pour qu'on puisse la livrer n'importe où, à n'importe quelle heure, pour mieux dégoûter tout le monde. Mais je me suis promis de pas barboter dans le bavardage. Alors oubliez la merde et revenons au sommeil qui est largement plus encouragé. Mais bien sûr, non seulement on aime ça, mais on y est encouragé. On nous en refile par paquet de 10 et gratuitement. Alors comment voulez-vous lutter quand on vous répète que ce que vous aimez le plus, vous enfoncez dans la léthargie molle et bienveillante, eh ben c'est une des seules choses qu'on attend de vous. Et que si vous travaillez toute votre vie à construire le petit lit moelleux et mesquin de votre endormissement, vous aurez l'honneur de toute la considération générale et la jouissance de pouvoir pioncer en toute sécurité. C'est même devenu la seule vraie question aujourd'hui. Dormira ou dormira pas? Il y a comme un intérêt global à endormir tout le monde, c'est clair. Ça devrait éveiller la méfiance, non? En tout cas, moi, je suis pas Blanche-Neige. Quand on s'acharne à me proposer une pomme, même dans l'emballage le plus charmant, je la mange pas. Alors voilà, je dormirai pas. J'ai lu sur un pot de yaourt que Bach a écrit les variations Goldberg à la demande d'un ami qui souffrait d'insomnie. C'est évident que pour jouer ces variations, faut pas s'endormir, et que même faut rester bien éveillé, pas ménager ses efforts. De deux choses l'une. Soit Bach était un sadique et il voulait torturer son pote, soit il voulait permettre à son ami d'exploiter son état de veille comme il le mérite. Comme un état à préserver, un pré à cultiver, un truc qu'on aime, quoi. Parce qu'on me fera pas croire qu'on crée un tel chef-d'œuvre simplement pour épuiser un ami par le bout des doigts et le faire tomber de sommeil. Donc, moi, je dors pas, et j'ai bien l'intention de plus me laisser endormir. Mais comme je vous le disais, pour réussir ce genre d'entreprise, j'ai intérêt à avoir une croyance solide dans mon truc. La croyance, c'est avant tout de l'endurance. La première nuit, c'est facile. Un peu d'agitation et ça permet de rester éveillé. On se lève, on marche un peu, on fait du bruit, on chantonne, on lit un truc, on fait trois pompes, on avale un dixième café, on fume une clope. Bref, on bidouille. Mais aucune bidouille ne tient bien longtemps. Faut vite se construire une croyance bien solide, endurante. Sinon, croyez-moi, vous vous endormez au premier virage. Mais une croyance bien solide et endurante, ça devient vite de la foi. Et là, on entre en terrain dangereux. Si vous me permettez un peu de bavardage, je vais vous raconter l'histoire de dingue qui m'est arrivée. Après une première bonne semaine d'insomnie, je sors tout auréolé de ma nouvelle quête de veilleur, paré pour ma nouvelle mission, réveiller les hommes. C'est que je m'étais un peu emballé. Les nuits sans sommeil m'avaient mis dans un état nerveux tout à fait singulier et stimulant, au point que j'avais décidé de convertir le reste de l'humanité à mon idée. Pour ne rien arranger, j'étais resté tout ce temps enfermé chez moi, volet fermé, pour éviter la dispersion. C'est que je voulais rester le plus concentré possible et éviter les fuites avec l'extérieur. Je suis donc sorti en plein jour, hyper concentré dans mon idée, et j'ai pris d'assaut la première terrasse de café. Je me suis posté devant les consommateurs les plus endormis, un groupe de mâles hilares et déjà complètement ivres qui fêtaient visiblement le roi de la fête, un gros type habillé seulement d'une couche géante, d'une tétine géante autour du cou et d'une bite en plastique au milieu du front. Je me suis posté devant eux et je leur ai sorti le prêche que j'avais préparé pendant la nuit.
Je le répète et je le hurle puisque vos oreilles n'entendent plus. Réveillez-vous ! Ne voyez-vous pas que pendant votre sommeil, une bande de pillards sans scrupules vous détrousse nuit après nuit et qu'il ne vous reste déjà plus la moindre richesse ? On nous a volé nos rêves, nos désirs et nos âmes. Que nous reste-t-il encore ? Allez-vous attendre de n'être plus du tout des hommes ? Je vous le dis et vous le savez, mais vous ne voulez pas le voir. La mort à venir se lit déjà sur nos visages, et c'est devenu là le signe de la normalité la plus parfaite, l'état commun de la vie terne et dépressive, accepté sans rechigner pour le bon fonctionnement de la machine fructifiante de la mort. Mais réveillez-vous ! Vous n'aspirez plus qu'à la paix, à la sécurité et au prévisible, c'est-à-dire au tombeau. Oui, même les plus jeunes âmes aspirent maintenant au tombeau. Réveillez-vous ! Écoutez-moi, mes frères, et faites comme moi. Jusqu'au dernier souffle, je ne me laisserai plus endormir, non ! C'est bien fini, non ! Je ne dormirai plus, je m'éveillerai, je me réveillerai, je tiendrai debout. Seul debout dans la nuit, s'il le faut, mais je vous bousculerai, je vous soulèverai, je vous secouerai. J'hurlerai à vos oreilles devenues sourdes, et même si vous devez ressembler à des morts vivants, je vous ferai marcher ! Levez-vous et marchez ! Mettez en marche vos cœurs et purifiez votre sang. Abreuvez vos âmes de ce sang ardent qui peut encore couler en vous et mourrez. Oui, mourrez s'il le faut, mais ne vivez plus comme des morts. Voilà le pire blasphème, mes frères. Voilà ce que signifie ne pas respecter la vie. Je vous aime et je préfère votre mort à cette survie lamentable. Qui a bien pu vous enfoncer dans le crâne que la seule chose à espérer est de vivre le plus longtemps possible, même si ce doit être de la plus misérable survie ? Non ! Mieux vaut vivre un mois éveillé que 100 ans endormi ! Réveillez-vous ! Levez-vous et chantez vos tripes jusqu'à ce que vos voix s'éteignent, oui, brûlez d'un feu ardent et disparaissez, mais cessez, 100 années durant, de laisser la mort parler par votre bouche pourrie.
C'est vrai qu'à la fin de mon discours, après avoir bousculé pas mal de tables, j'avais retiré quelques chaises sous des fesses bien endormies. C'est vrai aussi que j'avais distribué quelques claques de réveil en guise de digestif. Et j'avais réservé la plus belle pour le gros type en couche. Alors là, il a tout de suite dessoulé. Et il a voulu se battre. Moi, comme tout bon Don Quichotte de l'éveil, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis mis en position de combat. Et là, figurez-vous qu'un boxeur professionnel est sorti du groupe et m'a défoncé la tête d'un seul coup de poing techniquement impeccable. Je suis resté là quelque temps, étalé devant la terrasse du café, baignant dans mon sang rouge et attendant la mort en tentant de ne pas m'étouffer avec mes dents. Mais j'avais à peine eu le temps d'expérimenter ce nouvel état de veille prémortuaire qu'un véhicule de secours professionnel a débarqué et m'a emmené illico à l'hôpital. Là, les professionnels de la santé m'ont ausculté sous toutes les coutures et m'ont laissé dans un lit blanc. Mais j'ai vu le truc venir. J'ai arraché les perfusions de sommeil artificielles, je me suis enfui discrètement, clopin, clopant, pour aller me cacher dans un bar et réfléchir. Le problème, c'est que j'ai commencé à pas mal picoler en réfléchissant, ce qui m'échauffait davantage le réfléchissement, et il fallait bien que je boive encore plus pour refroidir. Et donc, fatalement, j'ai fini par faire part de mes réflexions à mon voisin de comptoir. J'ai pas compris pourquoi, mais je crois qu'il s'est fâché. Il a pris le même ton que moi sur une chaire à l'église, et il m'a dit que j'étais un attardé, que tout ce que je déblatérais, ça avait déjà été largement et bien mieux raconté depuis des siècles dans les bouquins, bref, qu'il existait des spécialistes de la pensée en vers, en prose et en travers. Ni une ni deux, j'ai voulu vérifier ça par moi-même, parce que jusque-là, je lisais surtout les pots de yaourt et les paquets de céréales, et je me suis enfermé de nouveau dans mon chez-moi. Et là, sans bouger, j'ai commandé sur internet tout ce qui se faisait de mieux en littérature depuis des millénaires. Philosophie, histoire, poésie, récits sous toutes leurs formes, romans anciens et nouveaux, j'ai lu jour et nuit sans m'arrêter jusqu'à ce que ma tête devienne pleine et lourde comme un paquebot de marchandises. Là, dans ma concentration intérieure, ma tête pesait 3 tonnes. Je pouvais presque plus bouger. Je me suis dit que c'était certainement le signe que j'avais acquis de la culture et qu'il fallait maintenant reprendre mes réflexions sur la veille. Mais c'était devenu plus catastrophique que jamais. J'étais devenu rampant et visqueux. J'avais englouti tellement de points de vue différents, de beautés chatoyantes et gerbantes, de pépites d'or et de dégueulis verdâtres, de réflexions intelligentes et contradictoires sur 1 million de façons de voir le monde et ma pauvre petite personne comme un ver rampant au fin fond de l'univers, que je savais plus du tout où j'en étais. Je me trouvais nul, médiocre et étroit. Ma doctrine de l'éveil m'apparaissait d'un coup dans toute sa bêtise. J'étais en train d'accrocher une corde au plafond, quand tout à coup, un sursaut d'éveil m'a repris. C'est là que se trouve le piège. Il ne faut surtout pas faiblir au moment le plus difficile. Il me faut reprendre la marche et retrouver la foi en l'éveil par le rythme de cette marche. La pensée personnelle commence par le pied. Alors je suis sorti et j'ai marché. J'ai marché, marché toujours plus loin et ma foi est revenue. Alors j'ai prêché en marchant et tout ça marchait ensemble. J'ai marché et prêché la veille pour terrasser les endormeurs professionnels. On ne pouvait plus m'arrêter. De jour comme de nuit, traversant les villes et les campagnes, je lançais les flèches de mon éveil aux riches comme aux pauvres, aux bienheureux comme aux malheureux, n'ayant d'autre but que ma propre quête. J'ai dû faire au moins 300 kilomètres. C'est ce que le psychiatre qui m'a récupéré appelle un voyage pathologique. Un voyage pathologique, c'est un voyage qui n'est pas touristique. Pour être tout à fait clair, c'est un voyage qui n'est pas prévu par l'usage normal, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans les catalogues commerciaux. En bref, c'est un voyage qui ne peut pas être pris en charge par une agence de voyage. Un voyage pathologique, c'est un voyage avec vos propres jambes et vos propres pieds, et vous allez dans une direction que vous choisissez tout seul. Pas du tout une destination touristique prévue, non, non, un truc de dingue totalement déboussolé pour les professionnels du voyage. Donc, vous imaginez que quand j'ai dit au psychiatre que j'avais marché 300 km en direction de ma propre étoile, vers ma quête de l'éveil, inutile de vous dire qu'à ses yeux de spécialiste, j'étais plutôt pathologique et pas très touristique. Si j'avais été touristique, il m'aurait tout de suite relâché. Un touriste, faut que ça touriste. Mais là, en tant que voyageur pathologique, j'étais plutôt susceptible de foutre la merde.
Avez-vous déjà eu des relations amoureuses ?
Il n'y a pas de différence. Femme, homme, la majorité, ce qu'elle veut, c'est dormir et endormir l'autre, quelle que soit la combinaison. La différence, c'est l'exception. L'exception, c'est pas tous les jours. J'allais pas lui expliquer ça, alors j'ai juste répondu non.
Des amis ?
Quand on est en veille, on est presque toujours tout seul. Alors là aussi, j'ai dit non.
Vous avez une activité professionnelle ? Un travail ?
Bon, là, inutile de préciser que j'ai tout de suite dit non. Le travail abrutissant, c'est le premier truc à éradiquer si vous voulez rester éveillé. Mmh. J'ai même ajouté que je restais enfermé chez moi la plupart du temps, pour éviter les fuites.
Quand vous restez enfermé chez vous, avez-vous des ruminations ? Des idées obsédantes ?
Puisqu'il voulait une réponse et que ça commençait à me fatiguer, je lui ai expliqué qu'en tant qu'individu doté d'un cerveau, des idées y prennent naissance inévitablement, et forcément, celles qui m'intéressent le plus ont tendance à se représenter un peu tout le temps. Il a coché rumination.
Avez-vous déjà eu des sensations de bizarrerie? L'impression de ne plus être dans la réalité?
Celle-là, elle est bien bonne, dans la réalité. Mais je sais même plus où j'habite. Dans la télé, dans l'ordinateur, dans le téléphone. C'est sûr, je me sens souvent un peu bizarre.
Bien.
Ah bon?
Vous arrive-t-il d'entendre des voix?
Mais oui, bien sûr, partout des voix. Je vous le dis, dans la télé, dans le téléphone, sur les ondes et sur Internet, et même sur les pots de yaourt. On est cerné par les voix.
Bien.
Et là, en bon médecin, il a posé sa dernière question. Ces salauds-là gardent toujours le plus important pour la fin, quand vous êtes déjà bien endormi. Vous pouvez vérifier. Quand vous allez voir un médecin, que ce soit pour la tête ou pour les pieds, il finira toujours par vous demander au bout du compte...
Est-ce que vous dormez bien?
Quand je vous dis que c'est le fin mot de l'histoire, là j'ai un peu fait le malin. J'ai dit, bien sûr que non, je dors pas bien. Bien sûr, il a compris, je dors pas bien. Pourtant, entre je dors pas bien et je dors pas bien, il y a une différence essentielle. J'aurais jamais dû jouer au con avec un psychiatre. Ça pouvait que se retourner contre moi. Il m'a dit en substance que si je voulais pas devenir psychotique, il me faudrait une hospitalisation de quelques semaines pour me reposer. Là, je me suis un peu emporté. Je lui ai dit qu'il était hors de question que je me repose et qu'il pouvait aller se gratter avec ses psychotiques. Et il m'a répondu très calmement, et même tout à fait gentiment, que comme je présentais une résistance au traitement, comme je mettais ma santé en danger, il allait falloir me sédater pour me rassurer, pour me détendre. Et donc la pomme de Blanche-Neige, je l'ai eue dans le cul. Une piqûre et au lit. Voilà comment s'est terminée lamentablement ma première tentative d'éveil. Je me suis réveillé en pleine forme, frais, rose et content. Comme tout le monde, quoi. Le ciel me paraissait tout neuf, comme le ciel bleu, frais et encore humide, tout juste lavé par une averse. Bien sûr que c'est bête. Une averse ne lave pas plus le ciel qu'on ne nettoie le monde en essuyant ses lunettes. Mais voilà, j'avais été pris en charge. On m'avait correctement sédaté et je pouvais dormir en toute sécurité. Mais je m'arrêterai pas là. J'ai d'autres lignes de fuite et même des tranchées de résistance avec des armes blanches et des nuits à feu et à sang qui attendent juste le bon moment pour sortir. Bonne nuit.